Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour l'expérience associée, le podcast qui explore, vous fait découvrir, vous partage les expériences d'associés et les conseils d'experts en création d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Geneviève Boucher. Bonjour Geneviève.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Alors Geneviève, vous êtes docteur en sciences de l'organisation de l'Université Paris-Dauphine et plein d'autres choses, mais vous savez quoi ? Le mieux, c'est que vous vous présentiez.
Alors, donc, je m'appelle Geneviève Boucher, et j'ai eu 3 formations. Une première qui est l'informatique et le numérique en général et les télécoms en particulier. Ensuite, il y a l'économie. Et j'ai une spécialisation dans une discipline très très rare en France qui est la futurologie cybernéticienne, c'est-à-dire la discipline qui travaille sur le long terme.
Waouh, quelle carrière! Et puis vous avez aussi eu beaucoup d'implications au niveau de la création et vous avez accompagné beaucoup de start-up.
Tout à fait, parce que j'ai été en charge des projets spéciaux de France Télécom, qui s'appelle maintenant Orange, et qui à l'époque était le ministère de tutelle de l'industrie de ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique. Et dans cette fonction, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il fallait que je crée des entreprises. Or, la France n'était pas du tout organisée pour favoriser la création d'entreprises. D'ailleurs, on ne voyait même pas pourquoi il fallait créer des entreprises. Or, dans le numérique, on a créé des métiers complètement nouveaux qui prenaient la place dans aucune grande entreprise qui existait déjà, d'où la nécessité d'apprendre à créer des startups. Et j'ai passé peut-être la moitié de ma carrière à essayer de faire comprendre à nos institutions comment il fallait s'y prendre pour donner de la place à nos créateurs d'entreprises. Et de la parole à l'acte, j'ai co-créé Dauphine Business Angel, qui est une structure qui a marché pendant 5 ans, qui avait pour vocation d'attirer à soi ce qu'on appelle des porteurs de projets, c'est-à-dire des jeunes ou des moins jeunes qui avaient envie de créer des entreprises et de manière à leur faire rencontrer des angels, c'est-à-dire des gens qui ont eu une belle carrière, bien rémunérés et qui, en fin de carrière, ont envie de vivre une aventure par procuration en soutenant avec une petite part de leur patrimoine des porteurs de projets. Dauphine a été pendant très longtemps la fac des traders, donc on avait les angels dont on pouvait avoir besoin, ça tombait bien. Voilà. Et donc, à travers cette expérience, j'ai eu la possibilité de croiser à peu près 1 millier de porteurs de projets. Et on en a accompagné entre 250 et 300. Donc, ça fait un panel assez large quand même.
Ah, très riche d'enseignements. Vous allez pouvoir partager beaucoup d'expériences à travers ce podcast. Bien, alors comme les présentations sont presque faites, je vous propose de poursuivre par un petit exercice un peu particulier, le portrait chinois. Vous connaissez le principe. À partir de questions simples, vous répondez du tac au tac. Ça vous convient ? C'est parti. Si vous étiez, Geneviève, une heure de la journée.
Alors, le moment précis où je me réveille, parce que c'est le moment où j'ai les idées claires.
Qui est quelle heure ?
Ah, alors là, c'est variable. Il n'y a pas d'horaire prédéterminé.
C'est le réveil. Une couleur.
Le jaune.
Un verbe.
Faire.
Un héros d'enfance.
Peter Pan.
Si vous étiez une personnalité inspirante.
Alexandra David Niel.
Waouh. Quel beau voyage qu'elle a fait. Si vous étiez un mot.
Bonjour.
Et maintenant, Geneviève, si je vous demande votre devise.
Ah, là, je sèche. On a un joker, non, c'est pas...
Vous avez un joker.
Ah, si. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Elle est de Winston Churchill. Et c'est vraiment la phrase qui synthétise la futurologie cybernéticienne. Elle dit la chose suivante. Lorsque l'actualité va vite, Il faut regarder loin pour prendre la bonne décision. Et en futurologie cybernéticienne, on regarde à 30 ans, 60 ans, 90 ans et 120 ans. Donc ça va.
120 ans.
Ouais.
Waouh.
C'est 5 générations.
D'accord. Si je vous demande un lieu.
Oh, Paris.
Et enfin, un mot dans lequel vous vous retrouvez.
Un mot dans lequel je me retrouverai. Contribution.
Merci, parfait. Pas facile hein, comme exercice. Allez, je crois que nous avons bien fait connaissance ensemble. Maintenant, je vous propose de passer à l'interview. Donc, de parler du sujet qui nous intéresse, qui est la création en entreprise à plusieurs. Mutualiser des idées, mutualiser des savoir-faire, mutualiser des finances pour entreprendre et créer de la valeur pour les autres. Ma première question serait, pour vous Geneviève, s'associer, est-ce une nécessité?
Alors, je le recommande très vivement pour faire des projets complexes. Je sais que la plupart des créateurs d'entreprises sont des auto-entrepreneurs et je trouve ça socialement très dangereux. Je le regrette. Je pense que c'est une phase transitoire. Et d'ailleurs, je travaille sur ces sujets-là pour essayer d'imaginer comment va évoluer le monde du travail. Plein d'individus isolés, c'est précaire pour l'individu et pour les projets qui tournent autour. Je pense qu'il faut qu'on fasse davantage l'effort de se mettre ensemble, quitte à aller vers des structures très évolutives. Actuellement, le code du travail, il est épais comme ça, je ne sais plus combien il a d'articles, genre 6000. Bon, c'est juste pas possible. Il va falloir aller vers des choses beaucoup plus fluides, continues et opérationnelles. Et donc favoriser la création et la destruction d'entreprises. D'ailleurs, j'en profite. Parce qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de le dire, mais je fais tout un travail pour faire connaître la notion de recyclage des projets d'entreprise. Actuellement, en France, on se donne beaucoup de mal pour créer des entreprises, et si elles échouent, tout passe à la poubelle, et les brevets, ils sont vendus au plus offrant dans des tribunaux de commerce, où on voit des Chinois, des Asiatiques, des Américains acheter à pas cher nos brevets. Et nos créateurs d'entreprises, on les malmène en leur faisant passer l'idée de recréer une entreprise. C'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. Il faut absolument s'organiser pour recycler nos projets et nos créateurs d'entreprises. C'est une opportunité de rebondissement gigantesque.
C'est la première fois que j'entends ce concept, c'est juste extraordinaire quand je vous entends. S'associer, serait donc une nécessité, en tout cas vivement conseillée. Qu'est-ce qui fait pour vous qu'une association sera réussie?
Alors, pour moi, je m'occupais des créateurs d'entreprises à Dauphine Business Angel, comme on allait impliquer des angels, on mariait des porteurs de projets avec des angels. Donc on avait un problème de faire matcher le montage. Mais je ne prenais des dossiers que lorsque les porteurs de projets m'avaient montré qu'ils avaient monté eux-mêmes déjà une structure qui tenait debout toute seule en quelque sorte. Donc j'étais amenée à marier des porteurs de projets. Et c'est très très difficile. Et je pense qu'aujourd'hui, si je le refaisais, j'irais plus loin dans le raisonnement. Mmh. Parce que, à l'époque, faute de connaissances, je me contentais de voir s'il y avait ce qu'on appelle le fit, c'est-à-dire quand ils se parlent, ils se respectent. Et surtout, est-ce qu'ils regardent dans le même sens. Ils vont pousser le caillou dans la même direction. Qu'il n'y en a pas deux qui poussent à telle trajectoire, et puis un, à 4 ou 5 degrés près, c'est pas tout à fait le même projet. Là, on sait que ça va y avoir une fission et ça va pas le faire. Voilà. Donc, je me contentais de ça, ce qui est déjà pas mal. Je me souviens, j'ai commencé à avoir des préoccupations de complémentarité. Et c'est très compliqué, la complémentarité, parce que on termine une époque où dans les écoles de commerce, même dans les écoles d'ingénieurs, on n'apprend pas suffisamment l'écoute, le respect de l'autre, la complémentarité. Au contraire, on apprend que le métier qu'on a appris, c'est le métier qui fait tourner la boîte. Donc l'ingénieur dit que sans ingénieur, la boîte n'existe pas. Le comptable dit que sans comptable, la boîte part à volo, et ainsi de suite. Et ça, c'était assez difficile à gérer.
La fonction d'associé serait un métier.
Non. Non, ce qui prime, c'est la volonté de s'impliquer dans l'entreprise pour que le projet aboutisse.
Une vision partagée, une complémentarité reconnue, en tout cas verbalisée, où les gens se connaissent bien, tant sur leurs compétences techniques que...
Comprennent mutuellement l'apport de l'autre sans lequel ça va pas le faire. Hein? L'ingénieur, sans le financier, il ne peut pas le faire. Voilà. Hein? Et ce n'est pas l'ingénieur qui est le plus fort ou le financier qui est le plus fort, c'est l'équipe.
La synergie, l'équipe. Alors il y a un chiffre qui circule qui serait que un partenariat sur deux serait en échec en raison de conflits entre associés. Quand vous avez observé des discordes ou des dysfonctionnements entre associés, quels sont pour vous les conflits les plus fréquents et récurrents que vous voyez entre eux?
Alors, il n'y a pas de conflit type. J'ai tout vu. La conjointe qui fait son caca nerveux et au point qu'elle dissout le truc, ça c'est le plus bête, hein, le plus bête, voilà. Mais après, c'est des différences de vues ou des différences d'intérêts, des trucs qu'on voyait pas au départ et puis petit à petit, on voit que c'était pas pareil. Et d'ailleurs, c'est là où je me rends compte que j'avais acquis de l'expérience. Parce que quand je voyais des équipes arriver, je me faisais raconter en profondeur comment ils en étaient arrivés à monter le projet. Parce que le diable est dans les détails. Et quand on écoutait bien au fond du truc, quelquefois, la souche du projet était vraiment trop différente et elle pouvait laisser apparaître qu'à un moment donné, il y aurait divergence. Par contre, moi, j'ai toujours était clair avec toutes les équipes que j'ai pu accompagner, il faut se préparer aux ruptures. Et elles sont de toute nature. Et il y en a qui sont révoltantes, et il y en a qui sont des opportunités. On n'y peut rien. Voilà, la vie est faite comme ça. Le mécanisme global de la vie, c'est le mode essai-erreur. Hein, et donc, une création d'entreprise, c'est un segment d'essais-erreurs. Et dans les erreurs, il va y avoir de la douleur, mais il va y avoir aussi des opportunités. Et donc, pour garder ces risques sous l'angle de l'opportunité potentielle et pas sous l'angle de l'échec qui met tout le monde par terre.
Est-ce que vous voyez un lien entre collaboration entre associés et performance de l'entreprise?
C'est indissociable. Je pense que si les gens qui vont rejoindre le projet trouvent des failles, on le voit dans les familles, il y a le papa qui est plus laxiste que la maman, et total, c'est au papa qu'on demande tous les Kinder, ou je ne sais pas quoi d'autre. Bon, ça, c'est pas grave, hein, mais il faut qu'ils se règlent sur ce genre de singularité, on va dire. Mais quelquefois, ça peut être beaucoup plus grave, du genre, écoute, je te donne l'autorisation de le faire, mais tu le dis à personne. On peut faire ça une fois ou deux. Parce qu'il faut être souple et créatif et conjoncturel, mais si c'est institutionnalisé, on fabrique des moments difficiles, quoi. Hein. Donc non, il faut quand même qu'il y ait beaucoup de cohésion. Si le noyau est cohérent, l'adhésion au tout autour va être naturelle.
Et ce noyau cohérent, il s'entretient, ça se passe comment pour conserver ce noyau cohérent? Parce que la vie est
Alors, ce qui
pas
compte, ce
un
qui
fleuve
compte
tranquille.
par-dessus tout, c'est le respect de l'autre, hein. Parce que nous avons chacun nos trajectoires, avec des embûches qui peuvent arriver de partout, et pas seulement dans la sphère professionnelle. Il faut arriver à se préparer à ce que les gens qui composent ce noyau vont pouvoir et devoir, à un moment donné, se mettre en retrait, ou au contraire, relayer quelqu'un qui, lui, s'est mis en retrait. Et donc, ça va changer l'équilibre du groupe, et donc il va falloir réinventer la position du point de sustentation de cet équilibre. Voilà, donc, et ça, on y arrive avec de l'écoute et de la flexibilité.
Prendre soin de la relation, prendre soin du noyau, prendre soin de
Ouais,
la cohésion.
voilà, ouais.
Vous avez une expression qui est le bien vivre ensemble. Et donc, du coup, je me disais, quels sont pour vous les ingrédients du bien vivre ensemble entre associés? Est-ce qu'on touche à cette notion de soin de la relation?
Alors, moi, quand j'ai commencé, parce que j'en ai créé plusieurs des entreprises, hein, mais la première, c'est celle qui a compté vraiment après les autres. Voilà. Il y avait une amie de mon mari qui m'avait dit, tu fais pas d'affaires en famille. Et puis, elle avait élargi, elle avait dit, même avec tes voisins, tu fais pas d'affaires. Tu fais des affaires par toi-même, dans des réseaux que tu fabriques par toi-même, mais tu mélanges pas les genres. Et effectivement, je l'ai souvent constaté, les structures dans lesquelles il y a monsieur, madame et le cousin, ou des choses comme ça, il y a des liens d'une autre nature qui viennent déranger, qui viennent donner l'impression que ceux qui ne sont pas dans ces réseaux-là vont être les larrons de la farce ou quelque chose comme ça. Donc, moi, c'est un conseil que je donne. Maintenant, je connais des entreprises où c'est monsieur et madame qui mènent la barque et ça se passe bien. C'est pas, mais il faut redoubler de prudence. Quand on commence à faire du business avec le cousin ou avec le voisin de palier ou je sais pas quoi. Le business, c'est le business et il faut que ça reste business.
Si vous aviez le meilleur conseil à donner à des associés, en dehors de cette notion familiale, donc si vous aviez le meilleur conseil à donner à des associés, lequel serait-il?
C'est le respect de l'autre, enfin, on n'en sort pas. Ça a toujours été le cas, mais dans le monde vers lequel nous allons, qui est un monde où quel que soit le projet, le défi va être de maîtriser la complexité. Et maîtriser la complexité, c'est trop compliqué pour le faire seul. Donc, on est obligé de collaborer avec les autres. On est obligé de se donner la peine de comprendre l'autre, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, dans quel schéma de pensée il s'inscrit, dans quel schéma de pensée il me délivre ce message-là et pas celui-là, et ensuite comment je peux faire des réglages de focale pour que on puisse avancer de façon positive. Et à quel moment il faut qu'on arrive à se rendre compte que peut-être là, il va falloir faire une bifurcation, on va peut-être pas continuer le même chemin et on va le faire proprement sans que on casse la baraque, voilà.
Est-ce que vous conseillez, par exemple, sur des partenariats à 5, enfin, il y a deux partenaires, en répartition de capital, vous avez ceux qui disent 50-50, c'est bien, d'autres qui disent surtout pas 50-50 de répartition de capital. Quel est votre regard là-dessus?
Alors, moi, mon regard, il est surtout pas 50-50, ça, c'est vraiment pas la bonne idée. Au contraire, essayer d'avoir plus de deux, au moins trois, si ce n'est cinq. Alors, pour démarrer un projet, trois, c'est un chiffre assez idéal. 5 quand on commence à grandir, et puis après, bon, ben, après au fur et à mesure des augmentations de capital, ça se structure différemment. Donc voilà. Parce que, un point de vue, bon, ben, ça manque d'éclairage. Deux points de vue, quand ça tourne à l'opposition, on ne peut pas s'en sortir, il faut un médiateur. Donc 2, c'est pas un bon chiffre. Il me semble. D'autant que la palette de compétences qu'il faut pour monter un projet étant très vaste, trois expertises, c'est pas trop, hein. Petite info en passant, au début des années 2000, quand on créait une entreprise, on pouvait créer un projet, monter un projet avec business plan, business model, etc., etc. Et parcours des premières levées de fonds en moins de 6 mois. Maintenant, je me rends compte que 2 ans, c'est pas exagéré. Parce que on demande aux créateurs d'entreprises de plus en plus de dossiers beaucoup plus complets, beaucoup plus complexes. Et d'ailleurs, les projets qu'ils montent sont eux-mêmes beaucoup plus complexes.
Et du coup, c'est l'occasion d'avoir une sorte de mise en place d'un certain type de fonctionnement entre ces partenaires, de frottements ou d'irritations qui seront déjà réglées et régulées pour partir vers des levées de fonds et le lancement.
Alors, il y a un truc qui peut servir de régulateur, c'est que comme il y a de plus en plus d'expertise à accumuler, ça donne la possibilité d'impliquer plus de gens. Et donc, trois, c'est vite fait. Hein. Et du coup, il faut faire attention de dire, ah ouais, non, mais attends, je vais faire rentrer aussi un petit peu l'avocat, comme ça, il va me faire à l'œil les petits papiers qui vont bien. Et puis le graphiste, on va le mettre dans le capital. Et puis, je ne sais pas quoi. Puis à la fin, vous vous retrouvez avec une brochette de 12 ou 13 personnes. Ça ne va plus. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut gérer ça en fonction de l'amplitude du projet, de la complexité, du facteur très innovant ou pas trop innovant. Quand c'est très innovant, il faut rester soudé. Donc, pas trop, parce que sinon, ça va être trop compliqué.
Merci Geneviève, on pourrait continuer à poser plein de questions sur la création d'entreprise. Ce que je vous propose pour clore cette interview, c'est quel livre conseillerez-vous à des associés qui nous écoutent?
Alors là, quel livre pour s'associer Oh là là, j'ai pas préparé la réponse. Est-ce que il y en a plein, donc je pense que c'est en grappillant. Par contre, moi je suis bénévole à 100 000 entrepreneurs et donc je fais des interventions pour 100 000 entrepreneurs. Et c'est pas tellement les livres que les gens me demandent. Ils me demandent qui il faut aller voir, parce que en France l'offre est pratiquement pléthorique, hein, et ils ont du mal à s'y retrouver entre les pépinières, les incubateurs, les mentors, etc., etc. Donc souvent je suis amenée à me prononcer là-dessus, et je pense que les incubateurs sont quand même si, à mon avis, ils ne sont pas encore arrivés tout à fait à maturité, essayer de rentrer dans un incubateur, c'est une bonne approche. Et ensuite, dans la foulée, rentrer dans une pépinière. Pas dans l'autre sens, pas la pépinière et ensuite l'incubateur.
Cube et ensuite on plante nos grains. Oui,
voilà, la pépinière, c'est un hôtel de créateurs d'entreprise. Alors que l'incubateur, en le choisissant bien, par exemple, moi, j'ai été incubateur à Pépite-Pont ou dans d'autres structures, on a des moyens pour ouvrir, par exemple, les bases de données qui vont faciliter la fabrication du business plan. Ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Tandis que quand on fait tout seul dans sa cuisine, c'est pas possible, on va se noyer.
De cette idée qui va passer en concret en action sur un business, de la co-création ensemble sous une forme d'accompagnement par un incubateur pour ensuite lancer la boîte qui passerait en pépinière.
Voilà, par exemple en France il y a environ 600 aides à la création d'entreprises, mais si vous regardez de près, il n'y en a qu'une ou deux qui vont vous convenir, parce qu'il y a des critères de secteur d'activité, implantation géographique, qualité amplitude du projet, cursus des gens qui portent le projet. Il y a des zones géographiques où ils vont avoir plus de facilité que d'autres ou des choses comme ça. Il existe des sites internet qui permettent de trouver les bonnes aides. Bon. Et puis une fois qu'on a trouvé les bonnes aides, il faut remplir les formulaires, le machin, le truc. Quand vous allez chez un incubateur, il fait le défrichage pour vous, hein, et il vous dit dans tel formulaire, surtout évitez de dire ça parce que ça va pas le faire. Par contre, si vous mettez ça comme ça, ça passe comme sur des roulettes. Bon, ben, le pauvre créateur d'entreprise tout seul dans sa cuisine, il va pas y arriver, hein, même s'il a un bon copain à côté de lui qui corrige les fautes d'orthographe, hein, c'est pas suffisant.
Ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'énergie, et ça permet de transformer l'idée.
Ça fiabilise le projet.
Et ça fiabilise le projet. Vous êtes une passionnée d'entrepreneuriat. Je sais que ça fait des années que vous êtes pour la création d'entreprises en Europe et en France. Je suis extrêmement touchée de vous avoir rencontrée. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez dire un dernier mot?
Eh ben, bon vent à tous les entrepreneurs, hein. C'est une aventure, quand on l'a fait, même si on n'a pas réussi, on en tire tellement de réflexions sur la vie, l'évolution. C'est très très riche, hein. Ça vaut le coup.
Merci beaucoup Geneviève. À une prochaine saison avec le podcast L'expérience associée.